et le mouvement 5 étoiles.
Merci Thibaut, on se retrouve dans moins d'une heure pour le journal de 22h. Il est 21h, belle soirée à tous sur Europe 1. Bienvenue si vous nous rejoignez, place tout de suite à Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Cet été sur Europe 1, Isabelle Morizet plonge dans ses meilleures archives et vous propose des rediffusions exceptionnelles. Ce soir, c'est un tête-à-tête avec le directeur du Cirque d'hiver Bouglione, Francesco Bouglione. Venu se confier au micro d'Isabelle Morizet en décembre 2018, il nous raconte les coulisses du cirque. Votre rendez-vous confidence et anecdote, c'est maintenant sur Europe 1. Très belle soirée.
Europe 1. Cher Francesco Bouglione, j'aime bien les citations. Anatole France disait « L'attrait du danger est au fond de toutes les grandes passions et il n'y a pas de volupté sans vertige. » Alors, bien sûr, on peut l'appliquer au cirque. S'il n'y avait que du rêve, de l'étonnement et des rires, mais pas de danger, pas de réelle mise en danger physique, la fascination n'existerait pas au cirque.
Non, ça fait partie de ce qu'on vient voir au cirque. Le rire, le frisson. Vous savez, c'est le dernier endroit au monde où on peut avoir ces sensations, où on voit ces choses, ces artistes en vrai. Je dis toujours, plus la télé va être réalité et plus le cinéma va être numérique, plus le cirque virtuel, plus le cirque aura de belles heures devant lui.
Donc cette notion de danger, elle participe aussi du bonheur du public.
Bien sûr, ça fait vraiment partie du bonheur du public. Alors, pas tout le monde aime les mêmes choses dans un spectacle. Hein. Chacun y trouve son compte avec des artistes différents. Mais il faut qu'il y ait cette part de frisson. Quand on voit un artiste sur son trapèze à 15 mètres du sol, bah, il n'y a qu'au cirque où on aura ces sensations-là. Ce frisson-là de voir en vrai un artiste qui risque sa vie, où le public ne s'en rend pas forcément compte parce que le travail est effacé par le travail.
Bien sûr.
Et c'est ça qui rend ce spectacle magique.
Elle est jolie la formule. Le travail est effacé par le travail. Alors, les arts du cirque sont nés il y a près de 5000 ans avant Jésus-Christ, en Chine, avec des acrobates et des équilibristes. Les premiers cirques antiques en pierre ont été construits sous l'Empire romain. Et dès le Moyen-Âge apparaissaient les premières ménageries ambulantes avec des troupes qui sillonnaient l'Europe. Mais aujourd'hui, Francesco Bouglione, voilà, on a la télé, on a le cinéma en 3D, on a les mondes virtuels, donc... Comme vous venez de l'affirmer au début de cette conversation, tout ça ne tuera jamais le cirque.
Non, au contraire. Tout ça, vous savez, nous, dans les spectateurs qui viennent voir les spectacles, ce qu'on entend le plus, ah, si on savait que le cirque était comme ça, ça ferait bien longtemps qu'on y serait retourné. Parce que le cirque, déjà, c'est le seul spectacle populaire, au sens noble du terme. Il n'y a pas de classe sociale pour aller au cirque. Tout le monde peut venir au cirque parce qu'on ne délivre pas un message. C'est on vient, on s'installe pendant 2 heures dans le fauteuil, on en prend plein les yeux et c'est aussi la dernière sortie familiale qui existe. On peut y aller des grands-parents aux petits-enfants, tous réunis.
Tout le monde y trouve son compte.
Et alors, tout le monde sera content et tout le monde va y trouver son compte.
Il paraît que c'est la troisième sortie préférée des Français, n'est-ce pas ?
C'est la troisième sortie.
Après le cinéma et la fête foraine.
Oui, c'est 13 millions de spectateurs.
Par an ?
Par an.
Le cirque ?
Le cirque. Alors, ils ne viennent pas tous au cirque d'hiver, malheureusement.
Ils devraient voir le nouveau spectacle baptisé Extra. Alors, Francesco Bouglione, la légende raconte que l'ancêtre de la dynastie Bouglione, fils d'un drapier à Turin qui avait fait fortune dans la soie au début du 19e siècle, serait tombé donc amoureux fou d'une jeune et ravissante gitane, dompteuse de fauves, et se serait enfui avec elle pour gagner la France et aurait changé de vie en montant des ménageries foraines. Mais d'autres racontent que en réalité, les Bouglione étaient déjà de célèbres montreurs d'ours au XVIIIe siècle en Italie. Alors, qui dit vrai ?
Alors, ça serait plutôt montreur d'ours en Italie.
C'est vrai ?
Oui.
Mais alors, elle sort d'où cette légende d'un ancêtre très notable, très fortuné, qui aurait suivi une gitane ?
Vous savez, les grandes familles comme la famille Bouglione fait partie, je dirais, des familles où il y a beaucoup de personnes aussi qui veulent avoir... qui racontait un peu sa petite histoire personnelle pour sortir du lot. Mais non, la vraie histoire, oui, c'est des montreurs d'ours italiens qui sont venus en France au début du siècle. Les premiers sont arrivés sous le Premier Empire.
Oui.
Et sur leur passeport, il y avait marqué « conducteur d'animaux sauvages ».
Conducteur d'animaux sauvages, ça c'est joli. Alors, en tout cas, moi j'aimerais que vous nous expliquiez, là on fait un petit bond dans le temps, comment le grand show que Buffalo Bill a fait à travers l'Europe en 1904 a permis, d'une manière indirecte bien sûr, mais a permis tout de même à vos aïeux, les quatre frères Bouglione, de s'installer en 1934 au Cirque d'Hiver.
Alors, il faut savoir que quand mon grand-père et ses frères ont présenté Buffalo Bill, il était mort déjà depuis pas mal d'années. Ça a été un des frères de mon grand-père, mon oncle Alexandre, avait trouvé un stock d'affiches dans une gare du passage de Buffalo Bill en France. Et ça a arrangé pour racheter ce stock d'affiches. Et ils se sont dit, bah, vu que Buffalo Bill est déjà mort et reviendra...
Certainement, jamais les récupérer.
Jamais les récupérer. Ils ont décidé de présenter Buffalo Bill, Porte Champerret, à Paris. Ça a été un tel succès que la majorité des spectacles parisiens ont demandé à la mairie de Paris que les frères Bouglione et Buffalo Bill démontent et quittent la capitale, parce qu'il n'y en avait que pour eux.
Oui.
Ça a été un triomphe à travers toute la France. Et c'est ce qui a permis ensuite, après, l'explosion du nom Bouglione.
Et l'installation donc au Cirque d'Hiver.
Et l'installation au Cirque d'Hiver.
Qu'ils ont loué dans un premier temps, c'est ça, avant de l'acheter.
Qu'ils ont loué dans un premier temps. Ils sont arrivés en 1934 et ils l'ont racheté ensuite en 1954.
Alors, le Cirque d'Hiver, il est avec la Comédie Française, j'ai appris ça, la plus ancienne salle de spectacle de Paris. Et il est le seul cirque en dur, en pierre de toute la France. Sa façade avec ses chevaux antiques et ses aigles impériaux est inscrite à l'inventaire des monuments historiques. Mais il a été construit quand exactement ?
Alors, le Cirque d'Hiver a été inauguré le 11 décembre 1852 par l'empereur Napoléon III. Ça a été sa première sortie officielle en tant qu'empereur. Et depuis, depuis ce temps-là, le Cirque d'Hiver, c'est le temple du cirque. Les plus grands y sont passés, les plus grands continuent à y passer. Et il faut savoir qu'à l'origine, à Paris, il y avait le Cirque d'été, qui était excentré, qui était sur les Champs-Élysées, juste à côté de l'Élysée. C'est pour ça qu'il y a la rue du Cirque.
D'accord.
Qui est juste là. Et pour les Parisiens, c'était un peu trop excentré et l'hiver compliqué pour s'y rendre. Donc, le duc de Morny, qui était le demi-frère de Napoléon III, a décidé de construire en plein cœur de la capitale le Cirque d'Hiver. Et comme ça, la troupe passait 6 mois au Cirque d'Hiver et 6 mois au Cirque d'été.
Et alors, ce Cirque d'Hiver, effectivement, il a été le témoin de numéros absolument hallucinants, puisque l'art du trapèze volant est né au Cirque d'Hiver en 1859, mais Miss Tinguette, la reine du music-hall des années 30, a inauguré au Cirque d'Hiver, en 1933, un spectacle totalement fou de ballet aquatique donné dans une gigantesque et somptueuse piscine construite sous la piste du Cirque d'Hiver.
Oui.
Elle existe toujours, cette piscine ?
Elle existe toujours. Je voulais revenir aussi à Léotard. Jules Léotard, qui a inventé le trapèze volant, comme vous avez dit, c'est la seule discipline du cirque où on connaît son créateur et son lieu de création. Et en plus, c'est une des disciplines qui est vraiment reine dans le monde du cirque, parce que c'est une discipline qui existe dans le monde entier. C'est l'apothéose, c'est la perfection. Parce que vous savez qu'un artiste fait un triple saut périlleux et qui est rattrapé par le porteur, ça se passe en millièmes de seconde et à peu près à 70-80 km/h, il arrive. C'est une discipline qui est la plus belle du cirque. Et c'est vraiment quand un numéro passe...
Vous êtes en train de dire qu'il faut rattraper un corps qui pèse 75 kilos en quelques millièmes de seconde, un corps qui arrive à 80 km/h et qu'on ne va saisir comme ça que par une main.
Que par une main. Ben, c'est ça qui fait la magie et c'est ça qui fait que le public vient voir ce petit moment-là.
Europe 1.
Jusqu'à 22h, vous écoutez Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Francesco Bouglione nous raconte son enfance dans un cirque. On le retrouve tout de suite sur Europe 1.
Alors, cher Francesco, vous êtes né au cœur de la tribu du clan, j'ai envie de dire, Bouglione, pendant une tournée en Belgique. Et j'aimerais savoir, aucun môme né dans un cirque jamais ne rêve d'autre chose, d'une autre vie. Le cirque happe vraiment tous les enfants qui naissent de parents artistes.
Ben oui, je connais très peu de personnes, même j'en connais même pas du tout.
Pas du tout.
D'enfants qui sont nés dans ce milieu, qui ont grandi dans ce milieu, qui ont décidé de faire autre chose. On a aussi beaucoup de chance parce que le cirque, c'est pas uniquement la piste, mais il y a tout ce qu'il y a autour. Le cirque est une grande entreprise, donc on a autant besoin d'artistes que de menuisiers, que de soudeurs, que de chefs monteurs. Donc tout le monde peut y trouver son compte, mais c'est vrai que quand on est enfant, quand on voit les adultes, quand on voit nos parents dans la piste, ben, on a envie de faire la même chose. Quand
Bien
on voit
sûr.
Le public qui applaudit, quand on est enfant, on ne se rend pas compte du travail. Après, on s'en rend très vite compte, hein, le travail et les heures et de sacrifice que ça demande pour ces quelques minutes dans cette piste. Mais ça reste un des plus beaux métiers du monde.
Donc on n'a jamais vu quelqu'un né et ayant grandi dans un cirque ouvrir par exemple une station-service ou devenir pharmacien. Ça n'existe
non,
pas.
Ça n'existe pas.
En revanche, Francesco Buglione, dans la prochaine vie, il paraît que vous vous verriez bien chef cuisinier, inventant tout un monde de saveurs devant des fourneaux. Vous avez confié ça un jour.
Oui, c'est vrai que si je n'avais pas choisi cirque...
Ou en tout cas si vous n'étiez pas né,
si
dans, la
pas né dans la famille de Buglione... c'est vrai que la restauration aurait été vraiment un choix. Mais ça serait, c'est très proche. Hein. Le cirque et la restauration, un bon spectacle, c'est comme un bon repas. Il faut une entrée, un plat, un dessert.
Voilà. Alors, grandir dans un cirque, c'est grandir dans un monde à l'intérieur du monde, avec ses propres règles et puis sa notion de courage et de talent. Qui vouliez-vous en fait devenir quand vous étiez enfant? Vous vouliez être un trapéziste, un jongleur, un dompteur de fauves, un écuyer?
Non, je voulais être mon père.
Le directeur du cirque.
Non, je le voyais pas du tout comme le directeur du cirque. Mon père travaillait avec des éléphants. Il faut savoir qu'au cirque, les éléphants, c'est les animaux, c'est les plus beaux, c'est les plus intelligents, c'est les plus sensibles. Ce sont des bêtes extraordinaires avec qui il y a une complicité doux, gentille. Et moi, mon rêve, bah, c'était de travailler avec des éléphants que j'ai jamais pu réaliser. Mais c'est vrai que enfant, bah, je voulais être mon père.
Il y a dans le spectacle actuel, baptisé Extra, il y a trois éléphants d'Asie. De...
Oui.
Et alors chacun pèse entre 3 et 4 tonnes, c'est
oui,
ça,
n'est-ce pas? Elles sont magnifiques.
Ce sont des femelles.
Ce
elles ont
des
une
femelles.
Cinquantaine d'années.
Une cinquantaine
elles
d'années.
Elles ne les font pas.
Non, elles sont elles sont en pleine forme. Elles sont magnifiques. Et c'est vrai que c'est ça, quand on les voit rentrer dans le cirque d'hiver. Parce que le public ne comprend pas comment elles peuvent arriver comme ça en plein cœur de Paris, ces trois éléphantes. Et c'est un des moments forts du spectacle.
Alors, est-ce qu'on sait très tôt pour quelle discipline est doué un enfant dans le milieu du cirque?
Non. Non, parce que tout le monde ne peut pas tout faire.
Mais oui.
Et au début, ben, on touche un petit peu à tout. On a des professeurs qui nous font découvrir l'acrobatie, le jonglage. Et tout doucement, ben, si on est plutôt bon acrobate, on peut aller vers les équilibres, vers le trapèze. C'est une évolution qui se fait naturellement. Et moi, je n'étais pas trop fait pour faire du trapèze. Donc j'ai fait de l'acrobatie équestre, j'ai fait du jonglage. Et c'est aussi après les disciplines qu'on sent le mieux.
Mais par qui se fait l'apprentissage? Parce que les enfants qui grandissent dans les cirques, ils ne font pas d'école du cirque. Donc
alors,
ça veut dire que c'est vraiment toute la famille en fait
alors,
qui
c'est
s'y
la famille,
met.
D'autres artistes
oui.
aussi qui sont là quand il y a des équilibristes ou des trapézistes ou des acrobates qui prennent le relais. En général, les enfants le matin sont à l'école et l'après-midi aux disciplines du cirque.
C'est magique ça. Et alors, Francesco Buglione, si le fils d'un grand trapéziste de renom veut devenir par exemple dompteur, ou pourquoi pas clown, il n'y a pas de problème?
Non, il n'y a pas de problème.
Parce que souvent il y a des dynasties comme ça d'artistes.
Non, il n'y a pas de problème. Vous savez, le cirque a toujours énormément évolué. Même en ce moment, vous savez, au cirque d'hiver, 70% des artistes ne sont pas issus du monde du cirque. Et c'est vrai que beaucoup de personnes...
Mais c'est très étonnant ce chiffre.
Ben c'est parce que c'est un beau métier, c'est une belle passion. Et c'est ce qui prouve qu'il y a aussi une très grande évolution dans cet art. Et en plus, pour les artistes qui soient issus du monde du cirque ou pas issus du monde du cirque, se produire au cirque d'hiver, c'est la consécration d'une carrière. Hein.
Alors, je reviens à votre enfance, Francesco Buglione. Les cours de maths et de français donnés sur les routes de la tournée, dans une caravane, parce que vous avez quand même sillonné toute l'Europe jusqu'à l'âge de 11 ans, n'est-ce pas?
Oui.
Après, les tournées ont été interrompues un petit moment, puis c'est vous d'ailleurs, à l'âge adulte, quand vous étiez directeur, qui avez décidé de les reprendre, en plus du cirque d'hiver qui se trouve au cœur de la capitale. Mais donc, cette enfance passée dans une caravane sous l'autorité d'un ancien missionnaire, n'est-ce pas, qui vous donnait des cours, bon, j'imagine que pour vous, c'était la punition absolue.
Alors, encore ça allait quand on était itinérant, parce que il y avait le matin l'école et l'après-midi le cirque. Mais la plus grande punition, c'est quand les tournées se sont arrêtées et que là, on est devenu, je dirais, entre guillemets, sédentaire.
Oui.
Et que là, j'étais à une école à la Bastille, où là, pour moi, ça a été un enfer, mais réellement un enfer.
En Bastillé.
Ah, c'était vraiment de quoi faire la révolution. Il y avait vraiment
vous fuguiez tout le temps.
Ah, vos parents
vous amenaient à l'école. Le temps qu'ils rentrent chez eux au cirque, c'est vous qui leur ouvriez la porte.
Oui, j'étais déjà arrivé parce que j'étais complètement décalé. Alors, c'est vrai que j'étais complètement décalé dans mon niveau scolaire, mais eux étaient complètement décalés avec moi dans le vécu. Et je ne comprenais pas que des enfants de mon âge n'avaient pas rencontré les personnes que j'avais déjà rencontrées, n'avaient pas connu ce que j'ai connu. J'étais pour eux un extraterrestre, et moi, c'était des extraterrestres. Eux aussi, j'étais complètement décalé, quoi.
Donc votre père a compris que, voilà, dès l'adolescence, il fallait en fait vous faire abandonner l'école pour vous consacrer vraiment au cirque. Alors, à 14 ans, avant de devenir jongleur, puis écuyer et acrobate, vous avez commencé donc par tous les petits boulots. Vous avez été garçon de piste, vous répariez tout, on vous demandait de ramasser le fumier. Tout ça, c'était absolument normal, n'est-ce pas, de passer vraiment par tous les étages de la pyramide. En fait, on ne peut pas diriger plus tard un cirque si on n'a pas tout expérimenté. Des tâches vraiment les plus humbles jusqu'aux applaudissements sous le chapiteau. Il faut aussi avoir été un artiste pour diriger un cirque.
Il faut avoir été... On n'est pas obligé d'être passé par la piste, mais ça fait partie des plaisirs personnels qu'on peut trouver dans ce métier. Mais c'est vrai que c'est important, très important de passer par toutes les tâches. Mon père m'a toujours appris, tu sais, si tu veux commander quelque chose à quelqu'un, il faut savoir le faire. Parce que s'il te demande « fais-moi voir » et que tu ne sais pas le faire, tu passeras pour un idiot. Et puis c'est aussi important de connaître la valeur du travail.
Ouais.
Et il n'y a qu'en faisant les choses qu'on connaît la valeur du travail.
Francesco Bouglione nous raconte dans un instant comment il est passé de jongleur acrobate à gestionnaire du Cirque d'hiver Bouglione. Jusqu'à 22h, vous écoutez « Il n'y a pas qu'une vie dans la vie ». A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, il n'y a pas qu'une vie dans la vie.
Vous écoutez Il n'y a pas qu'une vie dans la vie, l'entretien en toute intimité de Francesco Bouglione, directeur du Cirque d'hiver Bouglione, c'est maintenant sur Europe 1.
Et alors cher Francesco, quand on a connu l'adrénaline de la piste, comme jongleur, écuyer et acrobate, j'imagine qu'il faut une sacrée force de caractère pour laisser au vestiaire son costume d'artiste et ensuite décider de plonger dans les comptes et s'occuper de gestion. C'est vous et vous seul qui avez pris cette décision ou bien c'est le clan Bouglione qui vous l'a demandé ?
Non, je dirais que c'est un peu le clan Bouglione. C'est des choses qui se font naturellement. Moi, j'ai toujours été attiré par tout ce qui était organisation, mise en place. Tout doucement, on quitte la lumière de la piste. On se retrouve dans l'ombre. Mais bon, ça, c'est... On nous dit souvent, c'est pas trop dur de quitter la piste pour travailler dans les bureaux. Non, c'est pas dur parce que le bureau est à 5 mètres de la piste, au cirque d'hiver. On est juste à côté.
Et j'imagine qu'il y a une grande ouverture. Vous voyez la piste depuis votre bureau.
On voit la piste et en plus, y a les jours de bureau du lundi au vendredi, comme partout. Mais quand il y a les représentations au cirque, on est toujours présent. On est toujours là. Vous savez, quand ma femme me demande « t'es où ?», quand je dis « je suis à la maison », je ne suis pas dans mon appartement, je suis au cirque
Bien
d'hiver.
Sûr.
On n'est jamais coupé de cette ambiance, des artistes, de cette piste. C'est pour ça qu'on peut faire autre chose sans avoir la nostalgie de la piste.
Mais en tout cas, il est certain que votre père devait considérer quand même que vous n'étiez pas nul en maths pour décider de vous donner la gestion d'une entreprise pareille. Parce que ça représente combien de salariés à l'année ?
Alors,
il y a des intermittents du spectacle,
il y a aussi ceux
qui sont en CDI.
Alors en CDI, au cirque d'hiver, il y a à peu près une centaine de personnes. Quand il y a les spectacles, on n'est pas loin de 200.
Ouais.
Et toute production confondue...
Avec les tournées
Avec les tournées et d'autres spectacles encore que nous produisons, nous sommes montés il y a 2 ans jusqu'à 800 employés.
800 feuilles de paye.
Oui, ça, c'est ça qui fait très mal.
Ouh, c'est impressionnant.
Enfin, ce n'est pas les feuilles de paye qui font mal, c'est les charges qui font très mal.
On parle d'émotion, hein, parce que tout de même, décider, comme vous l'avez dit, de quitter la lumière pour... tomber dans l'anonymat de celui qui dirige, mais on ne sait plus finalement qui vous êtes. Les spectateurs ignorent complètement vos responsabilités. Vous vous souvenez de votre toute dernière représentation en tant qu'artiste sur cette piste ?
Oui, c'était même pas au cirque d'hiver. C'était en tournée en Suisse, à Berne, avec ma cousine Regina, avec le numéro qu'on faisait équestre. Et c'est la dernière fois. Je ne savais pas que ça allait être la dernière fois.
Ah, quand vous avez salué, vous ignoriez que c'était un salut d'adieu.
Je ne savais pas que ça allait être un salut d'adieu. C'est peut-être aussi bien comme ça aussi, parce que je n'étais pas triste. Et ensuite, tout doucement, je n'ai pas eu d'occasion de retourner en piste. Donc, ça s'est fait tout en douceur.
Tout en douceur. Alors, Francesco Buglione, devenir le directeur administratif de ce royaume parisien qui fait 5500 mètres carrés, c'est ça? 5500 mètres carrés, donc le cirque d'hiver, avec au plus fort de l'année, c'est-à-dire en novembre, décembre, avec les tournées, comme vous venez de nous le confier, jusqu'à 800 feuilles de paye à régler, c'est pas anodin. Est-ce que le cirque d'hiver est vraiment la plus grosse production de spectacle de France?
Oui, on a la plus grosse production de spectacles en France. Quand nous avons la tournée, nous sommes la deuxième plus grande caravane itinérante après le Tour de France.
Oui.
C'est parce que sur les tournées, on a voulu emmener la qualité, le confort, le prestige du cirque d'hiver. Donc ça comprend beaucoup, beaucoup, beaucoup de véhicules pour redonner cette ambiance à l'itinérance et les spectateurs voulaient retrouver cette âme et cette ambiance du cirque d'hiver qui est très forte pour la famille.
Et cette entreprise donc qui produit du rêve fonctionne sans aucune subvention, n'est-ce pas? Sans aucune aide publique. Vous y mettez un point d'honneur?
On y met un point d'honneur. Des fois, c'est
fois,
très dur.
Vous aimeriez bien
on aimerait
quand même
bien avoir un soutien de la culture. Parce que c'est vrai que la création coûte très cher. Hein. Les spectacles coûtent très cher, mais ce qui coûte très cher aussi, c'est la recherche, c'est la création, c'est les répétitions des spectacles. Donc c'est vrai que quand on travaille avec son argent, c'est beaucoup plus difficile que quand on a des subventions qui donnent pas une facilité, mais un certain confort de temps pour le travail.
Mais alors comment expliquez-vous que les autorités culturelles donnent le sentiment de mal aimer le cirque, alors que le cirque est la troisième sortie culturelle préférée des Français, on l'a dit tout à l'heure, après le cinéma et les fêtes foraines?
Mais vous savez, quand un spectacle est populaire en France, il n'est pas culturel. Il faut que ça soit un spectacle élitiste, vraiment pour un certain public, et moins vous aurez de monde dans la salle, plus ce sera culturel. Mais on s'en sort très bien. On a une oreille toujours très attentive, les cirques. Je dirais pratiquement plutôt même de l'Élysée que de la culture. Ouais. Quand on a des problèmes, c'est vrai qu'il y a une période assez difficile après les attentats pour beaucoup de spectacles, où vraiment l'Élysée a vraiment suivi beaucoup de personnes. Mais c'est vrai que le ministère de la Culture en lui-même, vous savez, cette année, en fait, les 250 ans du cirque.
Et rien n'est prévu.
Rien n'est prévu.
Pour un art qui, en fait, convoque chaque année en France 13 millions de spectateurs.
Exactement.
Bon, eh bien, j'espère que vous serez entendu.
Et qui réunit aussi
cet après-midi
la musique, la danse, qui réunit plein d'arts.
Oui, parce que au Cirque d'hiver, il y a un orchestre, une dizaine de musiciens, n'est-ce pas?
Alors, il y a un orchestre de 12 musiciens.
12.
Pour nous, un spectacle sans orchestre, c'est inconcevable. Vous savez, on a une clientèle qui est très habituée au Cirque d'hiver, qui vient régulièrement chaque année voir les spectacles. Ils attendent ça. On ne pourrait jamais présenter un spectacle sans orchestre. Vous savez, la France, on est un des rares pays où on ose présenter des comédies musicales sur bande.
Dans un instant, le directeur du cirque d'hiver, Francesco Buglione, nous racontera comment créer de bons spectacles de cirque. A tout de suite sur Europe 1.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Avec Isabelle Morizet sur Europe 1. Europe 1.
Francesco Buglione se confie ce soir sur les coulisses du cirque d'hiver. Buglione, on l'écoute dans Il n'y a pas qu'une vie dans la vie sur Europe 1.
Alors Francesco Buglione, pourquoi dites-vous que votre grand-mère, Rosa Buglione, disparue en août dernier à l'âge de 107 ans, pourquoi dites-vous qu'elle a inventé le cirque moderne?
Ma grand-mère nous a quittés fin août. Elle allait avoir pratiquement 108 ans.
Oui.
Elle a été la femme du patriarche du cirque dans le monde. Elle a été la matriarche du cirque ensuite. C'était la personne la plus âgée vivante de ce métier.
Oui.
Elle a tout connu, elle a vu l'évolution du cirque, elle a fait partie de cette évolution où tout est arrivé.
Oui, parce qu'elle avait 20 ans en 1931, Rosa Buglione. Donc à cette époque-là, vraiment, tout était à bâtir et à inventer dans le monde du cirque.
Tout était à faire.
Et vous dites que ce fut une épopée qu'on ne connaîtra plus.
Non, parce que c'est vrai que maintenant les choses vont peut-être beaucoup plus vite, mais elle a connu le cirque où le trapéziste faisait un simple passage. Elle a vu les trapézistes réaliser des quadruples sauts périlleux. Elle a vu la technique qui est venue se greffer dans ce spectacle. Elle a vu le cirque moderne tel qu'on le connaît actuellement. Elle y a participé.
Oui. Ouais. Alors, bien sûr, la cérémonie de mariage de votre grand-mère, Rosa, a été célébrée dans la cage aux lions, en présence des lions. J'imagine qu'elle a eu du mal à convaincre le prêtre. Hein,
non, oui, ça n'a pas été facile.
Mais personne ne résistait à Rosa.
Non, personne ne résistait à Rosa et à mon grand-père. Et il leur a fait confiance et il a eu raison.
Alors Francesco Buglione, on disait à l'instant que dans la jeunesse de Rosa, tout était encore à inventer sur une piste de cirque. Mais le cirque que vous défendez aujourd'hui et qui fait la part belle à toutes les nouvelles technologies pour optimiser les prouesses humaines, il est à la fois ancestral et en perpétuel renouveau. Comment et avec qui choisissez-vous les numéros, les artistes? Comment décidez-vous des nouvelles machineries?
Alors, le directeur artistique au Cirque d'Hiver, c'est mon cousin Joseph, Joseph Buglione. C'est lui qui s'occupe de tout ce qui est choix des numéros, programmation des spectacles. Et on travaille bien sûr tous ensemble avec mes autres cousins, ma sœur, mon beau-frère. Ou quand on va dans d'autres festivals, d'autres cirques, bah tiens, on a vu tel numéro, telle attraction. Et après, c'est lui qui gère toute cette création parce que
il voyage dans le monde entier.
Il voyage dans le monde
pour
entier
choisir les
pour choisir les artistes. Et vous savez, c'est très compliqué de faire un spectacle de cirque. Il ne suffit pas de prendre les 12 meilleurs numéros.
Ça ne marche pas comme ça.
Ça ne marche pas. Ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas pour ça que la sauce va prendre. Ce n'est pas pour ça que l'ambiance va prendre. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Hein. C'est comme un bon plat. Ben, il faut que tous les ingrédients soient vraiment bien dosés.
Il faut une montée en puissance.
Il faut une montée en puissance jusqu'au final. Et c'est très compliqué à chaque fois, vraiment, de trouver l'équilibre parfait d'un spectacle.
Alors, le spectacle actuel au Cirque d'Hiver a été baptisé Extra. Quels sont les moments forts qui font palpiter le cœur?
Alors, bien sûr,
vos préférés? Non, je ne vais pas vous demander vos préférés, parce que sinon il y a d'autres artistes qui pourraient en prendre ombrage.
Non, mais c'est vrai qu'il y a quand même, on a tous, moi, une des disciplines que j'adore au Cirque d'Hiver, bien sûr, c'est le trapèze volant, parce que le haut de la coupole est à 30 mètres. Il y a un espace pour ces acrobates qui est extraordinaire, où on a vraiment l'impression, là, pour le coup, qu'ils volent. Ensuite, ben, j'aime beaucoup, il y a les éléphants d'Elvis Erani. Ces trois éléphantes qui sont magnifiques et qui travaillent avec une complicité avec Elvis, qui est, les gens sentent ben, qu'ils vivent ensemble du matin au soir, jour et nuit, avec ces éléphantes. Il y a un jongleur qui est japonais. Le Japon est rarement représenté dans les spectacles parce qu'ils n'ont pas cette culture du cirque. Ils aiment beaucoup le cirque. On va faire des fois des tournées au Japon. Beaucoup de cirques vont au Japon.
Alors, on fait une confusion avec la Chine, parce qu'en fait, la Chine, c'est le berceau, n'est-ce pas, des arts du cirque, mais
c'est le berceau.
Pas le Japon.
Mais pas le Japon.
D'accord.
C'est complètement... Et c'est vrai que depuis quelques années, y a de nouveaux artistes japonais qui font éruption. Et c'est...
Plutôt dans quelle discipline?
Alors, beaucoup dans le jonglage ou comique.
Comique?
Oui.
Je ne savais pas que l'humour caractérisait la nouvelle génération de Japonais.
Et ben voilà.
Je l'apprends. Est-ce qu'il existe toujours, Francesco Buglione, malgré l'expérience et puis bien sûr la sécurité mise en place par tous les techniciens autour d'une piste, est-ce qu'il existe toujours des numéros dans lesquels chaque soir, les artistes risquent leur vie? Vous nous
bien
parliez
sûr.
Par exemple du trapèze volant.
Le trapèze volant, il y a un filet, mais c'est très dur de tomber dans le filet. Parce qu'on peut se faire très mal, on peut se briser la nuque en tombant dans le filet sans aucun problème. Il y a le numéro de Yves et Ambra, qui est un numéro où il travaille tout en doré, qui est magnifique. Et pareil, ben, il monte à 14-15 mètres du sol. Dès qu'on est en hauteur, de toute manière, il y a un risque. Et alors, les artistes ne sont pas des cascadeurs, ne sont pas des casse-coups, ne sont pas des têtes brûlées. C'est répéter, travailler, c'est à la perfection. Mais il y a toujours un risque. Et ça fait partie aussi de la magie de ce spectacle.
J'imagine que personne jamais ne boit une goutte d'alcool dans un cirque, bien sûr.
À part moi, si. Non, non, on est très strict. Mais vous savez, les artistes sont tous de grands sportifs. Donc, on n'a pas besoin de les surveiller.
Alors, les artistes sont de grands sportifs. On parlait tout à l'heure des trois éléphantes qui pèsent chacune entre 3 et 4 tonnes. Elles aussi sont de grandes sportives parce qu'elles font des choses très étonnantes sur la piste du cirque d'hiver. Alors, Francesco Buglione, en Afrique, les éléphants sont en train de disparaître à cause du braconnage, massacrés pour leur ivoire. Et on craint d'ailleurs que d'ici 10 ou 15 ans, il ne reste plus un seul éléphant sur le sol africain. Donc, les cirques, comme les zoos, peuvent désormais peut-être avoir un rôle à jouer dans la sauvegarde des espèces menacées ?
Alors oui, on a un rôle à jouer. Il faut savoir que la France, depuis plus de 20 ans, on travaille vraiment étroitement avec les vétérinaires, le ministère de l'Environnement, pour toutes ces espèces, alors un peu, je dirais, dites sauvages, parce que je vais prendre l'exemple des fauves. Les fauves, ça fait 50 générations que les fauves sont ici, en Europe, depuis les années 70. Il n'y a plus aucun fauve qui est prélevé dans la nature. Même avant les années 70, les derniers fauves importés...
Vous voulez dire que chaque fois, la portée a lieu, en fait, dans les cages du cirque ?
Dans les cages du cirque, dans les parcs du cirque. Donc, c'est ce qui prouve aussi que les animaux se sentent bien, parce que les animaux qui ne se sentent pas bien ne reproduisent pas. Et là, on est en train de travailler avec le ministère de l'Environnement, oui, justement, même pour réintroduire des espèces dans le milieu naturel des portées qui viennent des cirques.
Les grands cirques travaillent là-dessus.
Les grands cirques travaillent là-dessus. Mais aussi, il y a un très gros travail à faire avec les associations qui nous harcèlent des fois un petit peu trop ici et qui ne font pas assez de choses pour les animaux dans leur milieu naturel.
Alors, Francesco Buglione, le docteur Kupfer, qui est le vétérinaire attaché depuis 30 ans au cirque d'hiver, affirme que, en fait, tout comme les chiens de sauvetage, les chevaux de la police montée, les chiens d'aveugle ou bien les animaux des programmes hospitaliers pour enfants malades, les animaux du cirque sont pas du tout des outils de travail, mais en fait des compagnons qui ne peuvent vivre ensemble sur la piste que grâce à une confiance mutuelle. Il résume bien la réalité.
C'est
on ne force jamais un
on
animal
peut pas forcer
à travailler.
Bah, vous savez, vous avez un chien ?
J'ai un chat.
Vous avez un chat ? Alors le chat, c'est compliqué, le chat.
Beaucoup de qui personnes... arrive lorsque je l'appelle ?
Bon, bah, vous l'avez jamais frappé ?
Oh, certainement pas.
Bon, bah, voilà, c'est exactement la même chose. C'est des heures de complicité, de vivre avec. Vous savez, un chien, un fauve, un éléphant, c'est la même chose. Ça travaille à la confiance, à la récompense. C'est des heures passées avec. On ne peut pas contraindre un éléphant de faire quelque chose. C'est impossible. Il pèse 4 tonnes, il vous met un coup de trompe, vous volez à 20 mètres. On ne peut pas forcer un éléphant. Vous savez, il y a un exemple qui est au cirque d'hiver. Les éléphants, quand ils arrivent, il y a la piste nautique.
Oui.
Et les éléphants...
Dont on a parlé tout à l'heure, qui avait été inaugurée par Mistinguette.
Par Mistinguette. Ben, les éléphants, quand ils arrivent la première fois au cirque d'hiver... sentent automatiquement ce vide sous la piste. Il suffit qu'Elvis fasse deux pas dessus, ils le suivent directement parce qu'ils savent que si
c'est
lui...
c'est le dompteur.
C'est le avec qui c'est le dresseur avec
le
qui
dresseur.
Elle travaille. À partir du moment que lui passe, elles savent qu'elles peuvent le suivre parce qu'il ne va rien leur arriver. C'est instantané. Donc c'est bien ce qui prouve qu'il y a cette complicité entre eux.
Dans quelques instants, Francesco Buglione nous explique en quoi les autres compagnies de cirque sont complémentaires du cirque d'hiver Buglione. A tout de suite sur Europe 1.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie sur Europe 1.
Jusqu'à 22h, Francesco Buglione se raconte au micro d'Isabelle Morizet. Vous écoutez Il n'y a pas qu'une vie dans la vie.
Alors, Francesco Buglione, les arts du cirque font partie de ces métiers dans lesquels on ne peut pas tricher, jamais, d'aucune façon. Et pour certains, d'ailleurs, la vie humaine peut être mise en danger chaque soir sur la piste, comme on l'a évoqué tout à l'heure. Mais comment gère-t-on cette obligation du dépassement de soi physique au quotidien ? Comment fait le trapéziste volant, par exemple, quand il a 39 de fièvre et puis que son numéro est le clou du spectacle ? Comment fait-il ?
Eh bien, il travaille. Je dirais que dès que la lumière s'allume, dès que le rideau s'ouvre, on oublie toutes ses douleurs, on oublie sa fièvre. Et c'est le spectacle avant tout. Dès que le public est là, l'adrénaline, le trac, parce qu'on a toujours le trac, hein, que ce soit la première fois ou la millième fois, on a toujours le trac.
Vos meilleurs artistes, Sur la piste du cirque d'hiver, long, toujours.
Ah, toujours. 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 Le jour où un artiste perd le trac, il faut vite qu'il change de métier. Hein.
Francesco Buglione, le cirque d'hiver préserve les traditions des arts du cirque en les optimisant avec des moyens techniques et scéniques de pointe. Alors, j'aimerais bien savoir comment vous regardez les spectacles proposés par ces compagnies dont les médias disent qu'elles font du cirque contemporain, comme par exemple le Cirque du Soleil, ou le Cirque Alphonse, ou le Cirque Plume.
Alors, moi j'aime beaucoup. Vous savez, souvent les médias et les associations d'anti-animaux dans les cirques vont nous mettre en concurrence. On n'est pas du tout en concurrence.
Ils aiment bien créer des guerres.
Ils aiment bien créer des guerres. Moi, j'aime beaucoup Guy Laliberté, qui est un des fondateurs du Cirque du Soleil, et ouais. Un très bon ami, adore le cirque traditionnel. On va régulièrement voir les nouveaux spectacles du Cirque du Soleil, et que ce soit Plume, que ce soit d'autres compagnies. On est complémentaires. C'est vrai que, à part le Cirque du Soleil, parce que c'est vraiment un cas à part, c'est maintenant une machine planétaire. De guerre planétaire avec plusieurs dizaines de spectacles. Mais nos artistes passent aussi bien au Cirque d'hiver que chez Plume.
D'accord.
Que, vous savez, on a tous une démarche artistique.
On va dire que c'est l'habillage.
C'est l'habillage,
la robe, en fait,
voilà.
Qui fait
c'est
la différence.
C'est la robe qui change. Les spectateurs qui vont voir le Cirque du Soleil, ils ont envie de voir ce genre de spectacle. Ceux qui viennent au Cirque d'hiver veulent voir ce côté traditionnel. Mais sur le fond, c'est les mêmes artistes.
Ce sont les mêmes artistes. En revanche, dans des compagnies comme le Cirque du Soleil, les artistes sont tous anonymes. C'est peut-être dommage. Ils ne le sont pas chez vous.
Alors, chez nous, ils sont
pas anonymes dans ces cirques dits contemporains.
Justement, parce que ça leur permet d'avoir un turnover qui leur permet de moins dépendre des artistes que nous.
On lit souvent dans la presse que les compagnies québécoises réinventent sans cesse le cirque contemporain. C'est vrai ou c'est faux?
Alors non, c'est vrai parce que tout le monde prend exemple du Cirque du Soleil, mais en France, c'est vrai qu'on est quand même en tête pour les créations, pour les recherches.
Réellement.
On est vraiment... c'est pas une question forcément, vous savez, de moyens. La création artistique, ça n'a rien à voir avec les moyens. C'est une question de sensibilité, d'émotion, de moment, de lumière. Il n'y a pas besoin de...
Et les Français sont doués pour ça.
Et les Français sont doués pour ça. Il y a quelques années, il y a 3-4 ans, on était avec la tournée, on était à Brest. Et même jour que nous, Johnny passe en concert. Et la presse avait titré « Buglione a l'idée, le choc des titans ». Un comparatif des moyens techniques.
Oui.
Et on était arrivé ex aequo avec Johnny.
Mais alors, si vous disposiez d'un budget absolument illimité, Francesco Buglione, quel genre de défi vous seriez prêt à relever sur la piste du cirque d'hiver?
Oh là là, il y en a tellement.
Allez, le premier qui vous vient comme ça en tête.
Faire du cirque toute l'année.
Ça vous manque.
Ça nous manque. Toute l'année, ça serait notre...
Mais pourquoi le public ne se déplace moins dès qu'arrivent les beaux jours?
Alors vous savez, à Paris, dès que les beaux jours arrivent, tout le monde a tendance les week-ends à fuir la capitale.
Et
ça se comprend aussi.
Ils s'en manquent de soleil, les Parisiens.
Ça se comprend aussi.
Alors je posais la question sur un rêve de budget illimité, mais puisqu'on parle budget, j'ai appris que les rémunérations des artistes qui se produisent dans de grands cirques comme le vôtre peuvent varier de 200 euros à 1000 euros net par jour, avec 25 ou 26 jours de représentation garantis par mois. Donc ça, franchement, ça peut faire rêver énormément de cadres supérieurs.
Oui, et net de taxes, net de tout. Et ce tarif, c'est pour 2 représentations.
Par jour.
Par jour. Si nous avons 3 représentations, ils ont un cachet supplémentaire de 50%. Et si nous avons 4 représentations, comme c'est en ce moment dans la période forte, le cachet est doublé.
Bravo. Francesco Buglione, j'ai d'ailleurs appris que, comme pour les grands artistes d'opéra, les grands chanteurs lyriques, les agendas des artistes de cirque vraiment de réputation internationale, les agendas sont remplis de très nombreuses années à l'avance. Par exemple, il y a un clown italien qui est complètement booké jusqu'en 2025.
Oui,
il va falloir attendre 7 ans.
C'est pour ça que, surtout les artistes, on a toujours 3 ans, 4 ans, 5 ans d'avance pour pouvoir les booker. Le cirque est un marché mondial et surtout universel. Un artiste qui passe au cirque d'hiver, comme on disait tout à l'heure, peut aussi bien passer au Cirque du Soleil à Vegas, peut passer au Japon, peut aller dans le monde entier, parce qu'il n'y a pas cette barrière de la langue. C'est juste un message d'amour universel qu'a l'artiste et le public. Donc, bah, ce message coûte très cher. Et le rire coûte encore plus cher.
Dans quelques instants, c'est la dernière partie de Il n'y a pas qu'une vie dans la vie consacrée ce soir à l'univers du cirque avec Francesco Buglione. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Europe 1.
Très belle soirée sur Europe 1. On retrouve tout de suite Isabelle Morizet et Francesco Buglione pour la dernière partie de Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Vous êtes bien sur Europe 1.
Cher Francesco, est-il vrai qu'il n'y a jamais de grève chez les gens du cirque ?
Non, il n'y a jamais de grève. Il n'y a pas d'horaire, il n'y a pas de jour.
Il n'y a pas de syndicat.
Il n'y a pas de syndicat.
Donc on travaille sans compter.
On travaille sans compter. Si, les artistes comptent très bien, vous inquiétez pas. Mais c'est vrai que c'est... on se donne à 100% pour ce métier. Et jamais un artiste vous dira sur les heures, sur les choses, c'est impensable.
Donc il est plus facile finalement de diriger des artistes que, on va dire, d'autres employés.
Ah, oui, beaucoup
c'est plus
facile.
Bon, dans la famille Buglione, vous êtes combien à présider aux destinées du Cirque d'Hiver et à décider de tout ensemble sans jamais
Alors,
vous fâcher?
Alors on est 8, frères, sœurs, cousins, cousines, mon père Sampion et mon oncle Emilien. On est 8 cousins, cousines et on est 8 à décider de l'avenir du Cirque.
Et tout ça se fait toujours dans la parfaite harmonie.
Toujours, parce que on a été élevés comme ça. Ce lieu est un lieu magique pour tous les membres de la famille. Et pour nous, faire perdurer cet art et cette tradition à travers le spectacle que nous produisons, ça n'a pas de prix, c'est extraordinaire.
On raconte, Francesco Buglione, que la location, en fait, de l'édifice lui-même du Cirque d'Hiver pour de l'événementiel suffirait tout à fait à faire vivre très confortablement toute la famille. Mais loueur de salle, ça n'est pas une vocation. Et ça ne l'est absolument pas chez les Buglione. C'est pour ça que vous continuez de faire du cirque alors que, en fait, c'est juste la passion qui vous anime.
Alors,
puisque
c'est juste
vous pourriez
la passion.
Très bien vivre sans ça.
Ah, on pourrait être presque rentier. Vous savez, l'événementiel, il suffit de 3 personnes pour faire tourner l'événementiel au Cirque d'Hiver. Mais c'est pas notre métier, c'est pas notre vie, c'est pas notre passion. Il faut savoir qu'au Cirque d'Hiver, il y a eu pendant 20 ans une interruption de spectacle où il s'est passé uniquement concert événementiel et avec mes cousins...
Uniquement,
oui. Et il y a maintenant, ça fait la 20e année, avec mes cousins, on a été voir mon père, mon oncle, et on leur a demandé de refaire du cirque au Cirque d'Hiver. C'est le plus ancien cirque au monde, c'est le temple du cirque. Pour nous, c'était inconcevable de continuer à ne pas faire de spectacle dans ce lieu mythique.
Mais c'est incroyable parce que vous nous dites que ce sont les jeunes qui sont allés trouver les anciens pour les réveiller et leur dire « il faut revenir à nos fondamentaux ».
Exactement. Et mon oncle et mon père nous ont donné 3 ans. Ils nous ont donné... on a eu aussi la chance qu'ils nous ont laissé faire. Jamais une fois... on a eu un commentaire...
Mais il a fallu tout repenser, puisque tout s'était
tout
arrêté
repenser,
pendant 20 ans.
Il a fallu repartir à zéro de tout, que ce soit costume, même moyen technique au cirque. Et puis là, on est à peu près, cette année, on est à la 20e année. Donc ça s'est pas trop mal passé.
Bravo les jeunes. Quels sont les trésors les plus émouvants du musée privé du Cirque d'Hiver? Parce qu'il y a un grand musée privé sur près de 200 mètres carrés, c'est
il y a
ça
un grand... Oui, on aurait pour mon cousin Sampion, qui est le gardien de cet endroit, le maître des clés de cet endroit, on pourrait faire 2-3 000 mètres carrés avec sa collection sans problème. C'est tous les objets sont tous d'une valeur...
plutôt affective.
Affective et aussi financière. Vous savez, on a des séries, il y a des séries de photos de Richard Avedon... qui a fait ce fameux shooting au Cirque d'Hiver pour Dior,
ah oui.
Où il a photographié mon oncle Emilien, mon père, beaucoup de costumes. C'est vraiment...
De films, par exemple, comme ceux tournés avec Gina Lollobrigida en 1956.
Du film Trapèze.
Et Burt Lancaster.
Avec Burt Lancaster, Tony Curtis.
Qui n'était pas doublé, lui, paraît-il.
Burt Lancaster n'était pas doublé. Et Tony Curtis était doublé par mon oncle Emilien. Et Gina Lollobrigida était doublée par ma tante Sandrine, qui, on aurait dit, 2 sœurs jumelles. Donc c'est vrai que c'est un endroit, les collectionneurs de cirque, même si on n'est pas forcément passionné de ce métier, quand on rentre dans cet endroit, on sent qu'il y a le poids du travail, de l'amour de ce métier, Il y a des costumes de mon oncle qui ont été faits par Paco Rabanne. Les harnais des chevaux étaient faits aussi par Paco Rabanne. On était toujours très, très pointus.
Francesco Buglione, Paul Valéry disait « le cirque, chaque fois recommencé ». Vous, je sais que vous aimez bien avec malice préciser « le cirque est un spectacle pour adultes où les enfants peuvent venir ». C'est ça, c'est votre formule.
C'est exactement ça. Et c'est principalement pour les adultes qui ont su garder leur âme d'enfant. Un enfant ne va pas forcément comprendre le travail. Un enfant va s'amuser. Un adulte va regarder le spectacle pendant 2 heures, va tout oublier pendant 2 heures. Et ça, ça n'a pas de prix, des fois.
Je vous remercie infiniment, Francesco Buglione.
Merci à vous.
Merci.
Merci.
C'était « Il n'y a pas qu'une vie dans la vie » avec le directeur du Cirque d'hiver Buglione, Francesco Buglione. Demain vendredi, ne manquez pas de 21h à 22h, le portrait du comédien, humoriste et réalisateur Stéphane De Groot. Vous pouvez bien sûr retrouver toutes les émissions de « Il n'y a pas qu'une vie dans la vie » en podcast sur europe1.fr et sur l'application Europe 1. Excellente soirée en entre compagnie à suivre le journal de Thibault Lambert. À tout de suite sur Europe 1.